C'est l'émission de littérature. Nous parlons de Métaphysique de la putain parue aux éditions Léo Cher avec son auteur, le philosophe Laurent de Sutter. Merci beaucoup d'être avec nous, Laurent de Sutter, en direct par téléphone.
Eh bien, merci à vous, au contraire.
Nous parlons de Métaphysique de la putain et ça commence avec Portrait de l'artiste en putain et vous parlez de ce film. Un des premiers films de Jean-Luc Godard, une femme coquette. Pourquoi commencer par le cinéma, puisqu'on va s'apercevoir que dans Métaphysique de la putain, on va voir différents arts. Il va y avoir la musique avec l'opéra Lulu d'Albanberg. Il va y avoir bien entendu la littérature et la fiction avec Joyce. Il va y avoir la peinture avec Goya et il va même y avoir de la bande dessinée avec Chester Brown. Vous commencez par le cinéma, avec cette belle évocation de Jean-Luc Godard et avec cette idée forte de Jean-Luc Godard, dans le cinéma de Godard, les putains étaient le visage de la vérité.
Oui, alors c'est un si vous voulez, pour pouvoir peut-être comprendre la place que Godard occupe dans ce livre, peut-être qu'il faut que je vous raconte c'est en quoi consiste enfin, l'idée qu'il y avait derrière le livre lui-même. Il est vrai que Godard est le personnage principal, si vous voulez, du film. Le personnage principal du livre, c'est celui qui revient le plus souvent, quel que soit le chapitre. Il y a toujours un moment Godard, disons, dans le chapitre, un moment dans lequel voilà, la figure de Godard a de l'importance. Alors, l'idée du bouquin était relativement simple. Moi, ce que j'ai voulu faire quand j'ai décidé d'écrire ce livre il y a un an et demi, c'était un livre qui était un peu un livre de combat, mais un livre de combat comme pouvait être, disons, un livre de combat suivant les coordonnées, non pas de la guerre, non pas de la guérilla, non pas de la bataille, mais du combat comme pouvait l'être, je ne sais pas, le combat d'un diplomate florentin. Voilà. Donc il s'agissait d'un livre qui visait à porter des coups à la bêtise qui avait gouverné ou qui avait entouré tout le débat sur la prostitution en France ces dernières années, cette loi inique qui a été votée par la gauche il y a un an, etc., etc. Et moi, j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice, mais sur un mode qui serait un mode non vulgaire, un mode non guerrier, non belliqueux, mais qui soit vraiment le mode du poison qui viendrait s'introduire dans ce débat un peu trop bien intentionné, un débat dans lequel les arguments semblent être des arguments, voilà, parfaits. On parle du consentement, on parle de la violence, on parle de toutes ces choses-là. Et donc moi, plutôt que d'affronter cela, pour aider mes amis prostituées, pour aider mes amis putains, j'ai décidé d'écrire ce livre qui est un livre qui essaie de réfléchir sur l'effet produit par le nom putain et par les corps qui se soutiennent de ce nom. Voilà. Donc c'était ça l'idée. C'est qu'est-ce qui se passe quand on entend le mot putain arriver dans un débat public, dans un débat, dans une conversation privée, qu'est-ce qui se passe quand on croise physiquement une ou un putain, etc., etc. C'était ça l'idée. C'était ça l'idée. Et l'idée, du coup, c'est centré, ou l'intuition que j'avais par rapport à cette idée, c'était de dire ceci: ce qui se passe, c'est un moment que l'on peut qualifier de moment de vérité. Il y a quelque chose comme une forme très particulière, très singulière, très tortueuse de vérité dont il est question lorsqu'une putain apparaît dans le sensible, si vous voulez, quelle que soit la forme de sensible en question. Et donc, pour explorer ce domaine du sensible, plutôt que d'utiliser des philosophes au sens traditionnel, plutôt que d'utiliser des sociologues, plutôt que d'utiliser les débats politiques, j'ai voulu suivre les artistes qui, chacun à leur manière et chacun dans leur domaine propre, proposaient une expérience de la vérité, expérience qui peut être une expérience voilà, existentielle, hein, c'est le cas de Chester Brown et sa bande dessinée, une expérience profondément métaphysique, c'est le cas de Jean Genet du Balcon, une expérience qui est une expérience de l'espace, c'est le cas de l'épisode de Circé dans l'Ulysse de Joyce, une expérience qui peut être aussi une expérience de la dépossession et de l'argent, c'est le cas dans Lulu d'Albanberg. Et pour commencer, pour ouvrir la chose, pour établir, si vous voulez, le statut, la question du statut d'image, effectivement, Une femme coquette, le premier court-métrage de fiction filmé en 1955 par Jean-Luc Godard, qui raconte, adapté d'une nouvelle de Maupassant, et qui raconte, voilà, qui raconte, de fait, l'histoire d'une femme observant une voisine, voilà, qui a un manège louche. Elle comprend que la voisine, en fait, alpague des mecs depuis son balcon, enfin depuis sa fenêtre, et donc elle décide par jeu de faire la même chose. et pas de bol pour elle ou bol pour elle. En fait, ça marche très très bien et donc il y a un type qui réplique. Or, comme son mari va arriver dans 5 minutes, elle est bien obligée d'y passer parce que pour se débarrasser du type qui en fait évidemment dont en fait elle se débarrasse pas du tout parce que le mec est tellement satisfait qu'il lui dit ah ben je reviens vous voir la semaine prochaine etc. Bon, et Godard a fait un petit court-métrage là-dessus. Et donc ce qui m'a intéressé c'était à propos de ce court-métrage la manière dont déjà dans ce tout premier film de fiction et ensuite dans toute son œuvre la figure de la putain prenait cette place que j'ai voulu souligner dans tout le livre, qui était la place de la vérité.
La place de la vérité, et pour qu'il y ait vérité, faut qu'il y ait un support, faut qu'il y ait un média, et c'est pour ça que dans Métaphysique de la putain, Laurent de Sutter, on trouve différents supports artistiques, différents médias artistiques, la musique, la littérature, la BD, le cinéma.
Tout à fait. En fait, ce qui est surprenant, ce que l'on découvre en suivant les putains, en suivant l'effet que produisent les putains, par exemple sur Jean-Luc Godard, qui les a toujours mis en scène, hein, et dont les historiens, voilà, disent que bon, il en aurait fréquenté personnellement. Ce que l'on voit dans ces films, et ce que l'on comprend de cette figure de la putain, la manière dont voilà dont elle affecte ces films, c'est que la vérité, c'est autre chose que ce que l'on croit. Voilà. On a une idée de la vérité qui, ce qu'on pourrait définir de manière très simple comme ce qui apparaît une fois que l'on a balayé les voiles d'illusion sous lesquelles, voilà, sous lesquelles elle repose, hein. La vérité comme produit d'une activité intellectuelle dont le transcendantal, pour utiliser un grand mot, serait la lucidité. Et on se rend compte que c'est tout à fait le contraire. Et dans le cas de Godard, évidemment, c'est très patent. La manière dont Godard a assumé cela, a assumé le fait que la vérité n'était pas question de lucidité, mais question d'aveuglement, n'était pas question d'atteindre le cœur dur de la réalité, mais au contraire de se concentrer sur sa cosmétique, sur son maquillage, c'est quelque chose qu'il inscrit dans une tradition, qui est une tradition de méditation sur le statut prostitué de l'art, dont la figure, évidemment, inaugurale est Baudelaire. Baudelaire qui, dans une des fusées de Mon cœur mis à nu, a cette phrase extraordinaire qu'on n'a pas encore, à mon avis, complètement pesée. Il dit, voilà, qu'est-ce que l'art? Il pose la question, qu'est-ce que l'art? Il répond, prostitution. Il répond, prostitution. Et ça inaugure quelque chose de très très fort. Parce qu'on pourrait se dire, oui, qu'est-ce que l'art? Prostitution, d'accord, l'artiste est prostitué. Bon, ce serait qu'une métaphore, finalement, du fait que l'artiste a besoin de... Voilà, vend sa force créative à défaut de vendre autre chose contre de l'argent. Mais ce n'est pas du tout cela dont il s'agit, ni chez Baudelaire, ni a fortiori, bien évidemment, chez Godard. Ce dont il s'agit, c'est justement de reconnaître dans la puissance de la putain, dans la puissance de la prostituée, dans sa puissance de maquillage, dans sa puissance de séduction, si vous voulez, liée à son artificialité, l'artificialité de la demande qu'elle offre, à l'artificialité du déguisement finalement qu'elle arbore pour saisir le désir du Miché qui passe par là, eh bien, voilà, c'est à cet endroit-là que la vérité se produit. C'est à l'endroit du maquillage, c'est à l'endroit du faux, c'est à l'endroit de l'illusoire et non pas à l'endroit de ce qui serait le nu, de ce qui serait le brut, de ce qui serait voilà, la réalité dans sa définition la plus banale.
Et puis, il y a la vérité des signes que fait la putain, la prostituée. Je vous cite, la putain se contentait d'émettre des signes dépourvus d'autres significations que celles d'être détectées comme signes et qu'un client leur donne suite. C'était des signes sans qualité et sans pouvoir, des signes qui avaient abandonné le procès des apparences sans pour autant renouer avec leur éloge. Il y a la puissance du signe chez la prostituée.
Bien sûr, tout à fait, absolument. Si vous voulez, signe pourrait être, le mot signe pourrait être, disons, le nom générique de ce dont il est question lorsqu'on parle de maquillage, lorsqu'on parle d'illusion, lorsqu'on parle de cosmétique, lorsqu'on parle de faux, etc., etc. C'est quoi finalement le maquillage? Ben, le maquillage, voilà, on peut l'interpréter, bien évidemment, si l'on veut et si l'on est médisant, on peut l'interpréter comme, disons, la manifestation d'une intention. C'est possible, mais en soi, le signe, le maquillage est un signe sans signification. C'est un signe pur qui ne se donne que dans son os, que comme ostension, de, que comme pure ostension, que comme purement, oui, c'est ça, ostentatoire. Et donc cette idée-là, cette idée que avec la prostituée, on est dans un régime de vérité purement formel, constitué de signes purs et non pas de significations plus ou moins profondes qui seraient véhiculées par ces signes, je crois que c'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose qui correspond aussi bien à l'entreprise moderne de cinéma qui était celle de Godard, se libérer de la signification des images, c'est-à-dire de se libérer de la littérature finalement pour considérer les images comme telles. C'est aussi ce que l'on peut trouver bien évidemment dans l'opéra de Berg et la manière dont contre la doxa schoenbergienne, il réintroduit dans sa musique des petits airs de gavotte, des mélodies un petit peu vulgaires, etc., que Schoenberg, qui faisait s'étrangler Schoenberg de rage, mais dont on se rend compte qu'elles peuvent être utilisées effectivement comme pur signe, etc., etc., etc. C'est la même chose avec la signalétique des corps dans la bande dessinée de Chester Brown, 23 prostituées, que je trouve extraordinaire, etc., etc. Ou évidemment dans les masques du théâtre de Nau, qui fascinait tant Jean Genet et à partir desquels Jean Genet a conçu le balcon, puisque, en tout cas dans sa correspondance avec le seul metteur en scène qui n'est pas agonie d'insultes, seul metteur en scène qui est monté le balcon et qui n'est pas vraiment insulté, qui était Antoine Bourcellier, dans sa correspondance il indique très clairement que c'est cela qu'il avait à l'esprit, voilà. Donc le no. Mais le no, quel est le concept central du no quand on lisait Ami, quand on lit les théoriciens du no? C'est le concept de ce que les Japonais appellent, de ce que les Ami appellent le yugen. Et le yugen, c'est le surjeu. C'est le moment de l'exagération. Et bien, le signe, c'est ce qui vient cristalliser, dans le domaine du concept, si j'ose dire, ce qui vient cristalliser cette exagération. Et disons, le yad de la putain, pour prendre un espèce de cliché un petit peu gavroche comme ça, eh bien, fait partie de cela, fait partie de cet univers du yugen, ou fait partie de cet univers du surjeu, fait partie de cet univers de la cosmétique portée à une intensité d'assomption maximale, quoi, pour le dire comme ça.
Alors il y en a un que vous n'avez pas cité encore, c'est Joyce. James Joyce et ce passage dans Ulysse, où on arrive à cette thèse, il n'y a d'intérieur qu'au bordel, pour Joyce, le bordel est l'intérieur.
Oui, il faut peut-être raconter la scène, parce que tout le monde n'a peut-être pas à l'esprit ce chapitre monumental dans Ulysse, l'épisode de Circé. Voilà, Stéphane Dédalus a disparu et Léopold Bloom part à sa recherche, croyant comprendre qu'il s'est réfugié dans le quartier des bordels de Dublin, le quartier de Monto. Qui est un quartier qui était connu à l'époque dans l'Europe entière comme un quartier extrêmement malfamé, et un quartier que Joyce connaissait très très bien pour l'avoir fréquenté lui-même à de très nombreuses reprises. Et donc il y a cette scène qui est une scène écrite sur le mode du théâtre dans Ulysse, qui est une scène qui correspond plus ou moins, si on fait le parallèle avec l'Odyssée d'Homère, à l'épisode dans lequel Ulysse accoste l'île de Circé, et où les membres de son équipage vont visiter l'île, tombent sur cette femme somptueuse qui les invite, qui les régale, et qui les transforme en porcs. Voilà, qui est en fait une magicienne, qui s'appelle Circé, bon, et Ulysse part à leur recherche, parce qu'il y en a un qui parvient à s'en dépêtrer, il vient prévenir Ulysse, mon Dieu, on s'est tous fait avoir, ils ont tous été transformés en cochons. Bon, Ulysse, il a besoin de continuer son chemin, donc il décide d'aller voir la Circé, d'aller voir la sorcière. Sur le chemin, Hermès le croise et lui dit « Fais attention, c'est une magicienne, mais si tu prends cette herbe, » et il lui donne une poignée d'herbe, « si tu prends cette herbe, eh bien, tu seras immune des sortilèges de la sorcière et tu pourras lui faire faire ce que tu veux, elle deviendra folle de toi, etc. Bon. » Or, cette herbe s'appelle, en grec ancien, s'appelle molu ou moly. Voilà, M-O-L-Y. Est une herbe, voilà, une herbe assez courante, une herbe que l'on peut trouver de fait en Méditerranée. Et Ulysse va voir Circé, blablabla, et ce qui devait se produire se produit. Il séduit Circé en étant insensible à ses charmes, et il récupère son équipage, et il reste un an, je crois, sur l'île de Circé à jouir de ses délices. Bon, et bien là, on est à Dublin, Dédalus s'est perdu, évidemment, Dédalus s'est perdu dans le labyrinthe de ses propres errements. Et Bloom veut le retrouver. Et à ce moment-là, au moment de l'épisode de cet épisode-là, où il rentre dans le quartier des bordels pour retrouver Dédalus, il est lui-même en proie à toute une série de conflits intérieurs. Il s'est masturbé plus tôt sur la plage en, en voyant passer une jeune fille. Il devine que sa femme a un amant, etc. Bon, donc il est très emmerdé. Il sait plus très bien quoi faire lui-même du point de vue de ses propres désirs. Bon, et il rentre. Il cherche dans les différents bordels, il finit par rentrer dans le bordel de Madame Cohen, qui est une caricature à nouveau à peine déguisée d'un personnage qui a vraiment existé, qui était vraiment une tenancière de bordel de Dublin à cette époque-là. Et voilà, et en rentrant dans le bordel, il essaie de tirer des dalus d'affaires, mais lui-même est pris d'hallucinations dans lesquelles il se retrouve humilié, toujours plus humilié, voire même à un certain moment inverti, il se fait posséder par Mrs. Cohen, devenue comme ça, comme par magie, n'est-ce pas, la magie de Circé, devenue un Mr. Cohen. Et de toutes ces hallucinations, il ne parvient à se sortir qu'en se rappelant et en s'accrochant au nom de sa femme, femme qui s'appelle, évidemment, comme vous savez, dans Ulysse, Molly, avec deux L. Voilà, c'est-à-dire le même nom que l'herbe qui a sauvé Ulysse. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est ça. C'est le moment où Bloom rentre dans le bordel, qu'il est soumis à une espèce d'épreuve, qui est une épreuve, voilà, qu'on peut considérer comme une épreuve un petit peu initiatique. En tout cas, il est mis à l'épreuve de ses propres désirs, et il est mis à l'épreuve de quelque chose comme sa propre intériorité. Faire ce pas l'a obligé subitement à prendre en considération sa propre intériorité, à s'y installer, et à s'y installer jusqu'au point qui l'a fait tenir, qui est dans son cas le nom de Molly. Et donc la tenancière du bordel qui le traumatise tant devient l'instrument de la réconciliation avec lui-même quelque part. Elle prend la place à la fois de Circé, mais aussi de Hermès qui vient le sauver de ses propres sortilèges. Et ce qui est très fascinant dans tout cet épisode, c'est voilà, donc, tout cela se passe à l'intérieur, puis dès qu'il parvient à ressortir avec des dalus au prix voilà, de péripéties que je vous épargne, évidemment, il rencontre des soldats en goguette, et les soldats rossent des dalus, qui a une phrase malheureuse. Donc ça redevient le lieu, si vous voulez, le lieu de l'inauthentique et le lieu de la violence. Et la leçon qu'on peut tirer, alors je vous passe ici aussi les détails, mais la leçon qu'on pouvait tirer de cet épisode, il me semble, c'est effectivement une leçon en termes d'espace géographique. Si aujourd'hui, la prostitution fait l'objet d'une structuration spatiale très particulière et géographique très particulière. On essaie de cacher les putes. On essaie de les rendre invisibles. Ce qui est insupportable, c'est qu'on les voit. Si elles pouvaient être discrètes, ou si elles pouvaient être. Si on n'entendait jamais parler, ça me poserait problème, finalement. Ça ne posait pas de problème aux forces de l'ordre, ou aux gouvernants, ou aux tenants de la morale. Le problème, c'est qu'on les voit. Le problème, c'est qu'elles sont dehors et qu'elles ne sont pas seulement à l'intérieur. Et un intérieur qui sera un intérieur contrôlé, un intérieur dans lequel l'expérience serait entièrement structurée par la volonté étatique. Or, ce que l'on voit ici, dans cet épisode, c'est que l'intérieur dont il est question, c'est un intérieur qui est évidemment poreux, mais c'est un intérieur qui est tout sauf structuré. C'est un intérieur qui remet tout en question, et qui remet notamment en question la différence entre l'intérieur et l'extérieur, qui remet en question le fait que, l'extérieur serait de fait gouverné justement. Par la relégation des putains à l'intérieur. Ce dont on se rend compte, c'est que c'est l'inverse. C'est que l'extérieur est le lieu de la violence arbitraire, etc., etc., etc. Là où l'intérieur, dans ce cas-là, devient le lieu de l'expérience de la vérité en l'occurrence de la relation amoureuse que Bloom a avec sa femme, le fait qu'il aime sa femme. Voilà.
Parce qu'avec tout cet long épisode que vous nous avez vraiment magnifiquement parlé, Laurent de Sutter, vous en arrivez à cette conclusion que la putain provoque l'implication. La putain provoque l'implication parce qu'elle est le guide vers l'intériorité dont toute œuvre offre la manifestation superficielle, la forme imaginaire, le visage maquillé. Voilà, je vous cite.
Oui, c'est ça. Dans sa version positive. Et c'est aussi ça qui est insupportable, évidemment. C'est ça qui la rend insupportable à toutes les forces qui sont très nombreuses, qui, au contraire, aimeraient bien que, voilà, qu'on ne prenne pas ce chemin, qu'on ne prenne pas le chemin de la vérité, qu'on ne prenne pas le chemin de la découverte de son propre désir, qu'on ne prenne pas le chemin du questionnement par rapport à la logique de l'espace dans lequel nous évoluons, qui aimerait bien que nous ne posions pas la question de ce qu'implique acheter quelque chose, ce qu'implique vouloir posséder quelque chose avec de l'argent, et ainsi de suite. Donc, de fait, moi, j'aurais un hommage vibrant, au putain de ce point de vue-là, d'être par leur présence, soit en termes que, en termes, soit du point de vue simplement du nom, mais aussi en termes de présence physique, d'être la cause d'une espèce de situation finalement de crise, voilà, dans laquelle les forces mauvaises, pour utiliser une expression un peu massive, sont obligées de révéler toute leur mauvaiseté et toute leur vilainie, voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Laurent de Sutter, de ce moment passé en votre compagnie à parler de métaphysique de Léputin. Il y a beaucoup à dire encore de ces magnifiques textes contenus dans Métaphysique de Léputin. Je recommande la lecture à tous nos auditeurs, aussi de Théorie du trou, qui était votre précédent livre aux éditions Léo Cher. Et puis, profitons de l'occasion pour parler de Métaphysique d'Alien, un recueil de textes où il y a vous, Laurent de Sutter, mais aussi Elie Düring, Peter Zendi, par exemple, ou Frédéric Néra, c'est rassemblé par Jean-Claude Martin, et c'est également aux éditions Léo Cher. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Laurent de Sutter.
Merci à vous, Dominique.